Vous êtes bien sûr Radio Orient avec vous, François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, conseiller municipal délégué à Évreux, vice-président d'Évreux, porte de Normandie et vice-président de l'association Ville et Banlieue. Bonjour Driss Etazaoui.
Bonjour François-Xavier, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs.
Bienvenue, et tout d'abord ce qui vient de se dérouler en Allemagne, l'AFD, ce parti d'extrême droite qui obtient près de 44% en Saxe-Anhalt. En Europe, les partis politiques populistes progressent. Aux États-Unis, Donald Trump a vraiment déplacé le débat politique. En France, le RN est en tête des intentions de vote. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on assiste aujourd'hui à la fin d'un cycle politique occidental ?
Écoutez, d'abord, c'est un véritable coup de semonce, ce score de l'AFD dans le land des Saxe-Anhalt. 43% des voix, c'est deux fois plus que ce qu'ils ont obtenu en 2021, puisqu'ils avaient obtenu un petit peu plus de 20%. Et donc effectivement, ce parti d'extrême droite, parce qu'il faut l'appeler ainsi, a doublé son score. Et donc c'est un résultat qui évidemment est un signal d'alarme, pas seulement pour les Allemands, mais pour l'ensemble des démocraties européennes. Et il faut aussi, quelque part, eh bien, avoir la lucidité, François-Xavier, de regarder ce vote en face et sans jamais mépriser les électeurs. Quand vous avez près de 44% des électeurs d'une région qui votent pour un parti extrémiste, on ne peut pas simplement considérer qu'il s'agit de 44% de fascistes, de racistes, de personnes xénophobes. Je pense que derrière ce vote, il y a une colère, il y a un sentiment de déclassement, des inquiétudes sur l'immigration, comme en France d'ailleurs avec le Rassemblement National, aussi probablement des inquiétudes sur l'immigration, sur la maîtrise des frontières, le pouvoir d'achat. Probablement les questions de sécurité aussi.
Mais est-ce que cela signifie que les partis traditionnels, aujourd'hui, ne répondent plus aux inquiétudes concrètes des populations ? Le logement, le niveau de vie, l'immigration, vous l'avez évoqué, la sécurité et ce fameux sentiment de déclassement, qui est plus qu'un sentiment d'ailleurs.
Il y a aussi, surtout, une défiance profonde à l'égard des partis traditionnels, et vous avez raison. Aujourd'hui, tous les partis dits républicains, suscitent chez nos concitoyens, chez les Européens, de la défiance. Et on le voit notamment dans les scores liés à l'abstention aux différentes élections, aux différentes échéances. On voit que nos concitoyens et nos électeurs, de plus en plus, c'est pas nouveau, c'est un phénomène qui continue à s'aggraver. Et d'où la crise institutionnelle en France, d'où la crise politique en France, avec une absence de majorité ici à l'Assemblée, avec des blocs qui s'affrontent, en particulier un bloc d'extrême droite et un bloc d'extrême gauche. Et aujourd'hui, nous avons du mal à obtenir ou à susciter la confiance chez nos concitoyens. Et je crois que le meilleur antidote aujourd'hui au populisme, c'est pas de faire la morale aux électeurs, mais c'est probablement de leur apporter des réponses concrètes sur les sujets que j'ai abordés tout à l'heure, à savoir le pouvoir d'achat, la sécurité, les inquiétudes sur l'immigration, etc.
Et oui, cela à 8 mois de la présidentielle en France. Alors que doit faire le centre ? Vous appartenez au MoDem, le mouvement démocrate, c'est un parti centriste. Qu'est-ce que doit faire le centre, la droite républicaine, la gauche républicaine, pour combattre les idées des extrêmes ? Quelle stratégie adopter ?
Vous avez raison, je crois que nous, Bloc Central, nous avons une double responsabilité, c'est d'abord de rien céder au discours de rejet, au discours de division de celles et ceux qui souhaitent fracturer, que ce soit l'AFD en Allemagne ou le Rassemblement National en France, mais aussi et surtout entendre les préoccupations qui nourrissent ce vote. Je crois que notre responsabilité, notre vocation à nous autres, élus, qu'on soit parlementaires ou élus locaux, c'est de redonner une perspective et de la confiance dans la démocratie. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que l'on donne à voir dans la perspective des élections présidentielles, n'est probablement pas, et là je prends mes responsabilités en le disant, moi, Driss Etazaoui, élu local, président d'une association d'élus, je trouve qu'on ne donne pas, avec une quarantaine de candidatures aux élections présidentielles, on ne donne pas probablement le meilleur exemple de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, là où notre pays a besoin d'union, notre pays a besoin d'apaisement, notre pays a besoin d'unité, nous faisons le choix, dans la perspective des élections présidentielles, de dire c'est moi, moi et encore moi, au lieu de réfléchir à l'intérêt supérieur de la nation, à l'intérêt supérieur du pays, et de trouver finalement les voies, les solutions en interne susceptibles de porter un programme central pour faire face à l'extrême droite et à l'extrême gauche.
Donc il faudrait, selon vous, un candidat pour la droite républicaine, la gauche et le centre ?
Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait rien céder au discours de rejet et de division, et qu'il fallait entendre les préoccupations de nos concitoyens. Aujourd'hui, attention, et défions-nous, moi, quand je regarde les LR dans le paysage politique français, j'alerte mes amis, ils sont nombreux, que ce soit au sein de la majorité municipale à Évreux, que ce soit sur le plan national, j'ai beaucoup d'amis LR, et je leur dis, attention, je pense que Jacques Chirac aujourd'hui se retournerait dans sa tombe s'il savait la direction, la trajectoire que prenait sa famille politique. Et cette trajectoire n'est probablement pas, et n'est certainement pas la plus opportune. On voit à quel point est-ce que les digues vont sauter aujourd'hui entre les Républicains et le Rassemblement National.
Et c'est bien le problème, justement, les différents partis cités ne partagent pas les mêmes points de vue. Donc un candidat unique, c'est quelque chose d'impossible aujourd'hui.
Alors, c'est pas impossible, vous savez, quand vous cherchez à tout prix l'union et que vous avez chevillé au corps l'intérêt supérieur de la nation, vous pouvez construire un programme. Regardez, le Front Populaire à gauche aux dernières élections législatives, ils ont réussi finalement, malgré les sensibilités différentes de tous les partis de gauche, malgré les luttes intestines, malgré les égos des uns et des autres, ils ont réussi à trouver le chemin pour des candidatures communes. Et je crois que nous aussi, au Bloc central, dans la perspective des élections présidentielles, nous ne devons pas avoir à l'esprit l'ambition personnelle qu'il nous faut absolument sacrifier sur l'autel de l'intérêt supérieur. Et moi, j'appelle l'ensemble des candidats, d'Édouard Philippe, Gabriel Attal, jusque la gauche républicaine et la droite républicaine, eh bien, à trouver un candidat dans la mesure du possible qui fait l'objet d'un consensus, et ensuite le programme, même s'il faut d'abord commencer par le programme et se mettre d'accord sur les éléments programmatiques pour ensuite effectivement identifier celui ou celle qui serait le plus susceptible de le porter et de le proposer à nos concitoyens.
Aujourd'hui, Marine Le Pen veut utiliser le référendum pour déplacer le débat sur l'immigration et désormais sur le port du voile islamique dans l'espace public. Est-ce que le référendum est une réponse à la crise démocratique ou une arme politique qui risque de transformer certaines composantes de la population française en objet de campagne, si je puis dire?
Le référendum est un outil fabuleux, plébiscité par nos concitoyens, avec une réponse oui ou non. Et nos concitoyens, sur des sujets de société, sont appelés à s'exprimer dans leurs convictions profondes, dans leurs souhaits, dans la direction du pays, et il est utile, opportun, de les solliciter. Pour autant, le Rassemblement national ne poursuit pas cet objectif. Son seul objectif, c'est de fracturer. Son seul objectif, c'est de stigmatiser. Son seul objectif, c'est de jeter au chien l'opprobre, de jeter l'opprobre sur une partie de la communauté nationale. C'est nos concitoyens de confession musulmane. Vous savez, quand on n'a pas de programme, quand on n'a pas de fond, et qu'on veut faire du buzz, et qu'on veut créer des réactions, créer de la polémique pour faire parler de soi, eh bien, on ressort un vieux chiffon rouge que l'on agite comme ça pour susciter la peur, pour susciter la crainte. Et on le sait bien, les sociétés totalitaires aujourd'hui, eh bien, pour réussir et parvenir, eh bien, elles distillent de la peur, elles distillent de l'inquiétude, de la colère, et cette colère se transforme souvent en haine. Et c'est ça que va réussir à réaliser le Rassemblement national. C'est à monter nos concitoyens les uns contre les autres. Je veux dire, dans le sens des priorités de l'État aujourd'hui, la question du voile ou du foulard islamique, c'est pas le premier sujet de préoccupation de nos concitoyens. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est le pouvoir d'achat, c'est les questions de sécurité, c'est les questions de logement, c'est la hausse du coût de l'énergie. C'est ça qui préoccupe au quotidien nos concitoyens.
Et justement, parlons du fond, Driss Etazaoui. Vous venez d'évoquer le pouvoir d'achat. Une génération entière aujourd'hui a le sentiment qu'elle ne pourra jamais acheter un logement, par exemple, ce que leurs parents ont pu faire. Est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui le modèle fiscal français pour favoriser l'accès au logement et la transmission aussi entre générations?
Le pouvoir d'achat, François-Xavier, c'est ce qui reste pour vous comme pour moi, comme pour nos concitoyens, à la fin du mois, après avoir payé le logement, l'énergie, les transports, l'alimentation, les assurances et d'autres services essentiels. Et aujourd'hui, beaucoup de familles ont le sentiment de devoir faire des choix qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et c'est mon cas aussi, je suis père d'une famille de 5 enfants et aujourd'hui, moi, derrière les statistiques, il y a une réalité qui est simple. C'est que je reporte des dépenses, je renonce à certaines activités. Et puis, je surveille aussi mon compte bancaire hein, quasiment tous les deux jours, trois jours, je suis sur mon application pour suivre. Mais ce que fait Driss et Azaoui, c'est ce que font des millions, des dizaines de millions de nos concitoyens.
Mais alors, quelle marge de manœuvre ? Par exemple, est-ce qu'une réforme des droits de succession qui permettrait davantage de transmettre aux enfants, notamment aux classes moyennes, serait quelque chose de pertinent ?
Aujourd'hui, il y a une double responsabilité, je vais répondre à votre question, il y a la responsabilité de l'État et la responsabilité des collectivités. Moi, je suis élu local, si vous le voulez bien, je m'exprime au nom des collectivités locales, je suis président d'une association d'élus. Et l'État devra prendre aussi ses responsabilités. Mais nous, quand nous sommes aux responsabilités locales, nous n'avons pas la capacité de décider du montant des salaires, du prix du pétrole. Par contre, nous pouvons agir sur une partie des dépenses qui sont des dépenses contraintes. Et nous avons des leviers, François-Xavier, pour interagir. En particulier dans cette rentrée, que ce soit les tarifs municipaux, par exemple. Les cantines, les activités sportives, culturelles, les centres de loisirs également, mais aussi le transport, la mobilité, l'accès aux services publics, le soutien au commerce local. Nous avons aussi des CCAS, conseils communaux d'action sociale, de manière à aider celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc, à l'échelon local, nous avons des marges de manœuvre. Mais l'État aussi doit prendre également sa part, parce que les grandes politiques structurelles, c'est l'État. Redonner du pouvoir d'achat à travers l'emploi, à travers l'insertion, à travers les grands chantiers, c'est aussi l'État.
Justement, le budget 2027 est au cœur des débats. Pourquoi est-ce que l'on demande toujours aux collectivités de faire des économies alors qu'elles sont précisément celles qui assurent les services publics que les citoyens voient tous les jours ?
J'aimerais que Sébastien Lecornu vous entende, vous avez raison, vous êtes tout comme nous aussi ancrés dans la réalité du quotidien. Quand on parle du budget, c'est d'abord la dette. 3 536 milliards d'euros de dette. Et la préparation du budget 2007, on le voit bien aujourd'hui, elle intervient dans un contexte extrêmement
2027,
contraint. Ouais, 2027 est extrêmement contraint. Sébastien Lecornu, d'ailleurs, s'est exprimé, il a fait un tweet tout à l'heure, j'ai vu ça ce matin, en disant il y a des fuites, méfiez-vous, des bruits, des rumeurs, etc. Aujourd'hui, tout est sous contrôle, et quand nous aurons à communiquer, nous communiquerons. Et vous, pour répondre à la question qui était la vôtre, sur la question des collectivités, qui sont actuellement au cœur des discussions sur le PLF 2027, effectivement, Sébastien Lecornu, son gouvernement, demande une contribution importante à l'effort national, mais dans les modalités, reste à préciser. Nous, on s'interroge un peu sur la manière dont les collectivités vont être servies au milieu du repas.
Et les élus locaux, vous êtes un élu local, ont-ils suffisamment de pouvoir, hein? On leur demande plus de sécurité, par exemple, mais la sécurité reste une compétence régalienne, sauf si on parle bien entendu de la police municipale. On leur demande aussi de maintenir les services publics, mais à côté, les marges financières sont réduites. C'est difficile pour vous.
On est en plein arbitrage budgétaire, nous aussi. Hein. Les collectivités, aujourd'hui, préparent leur budget 2027 avec l'expectative des grandes orientations financières et budgétaires que prendront le gouvernement. Mais pour autant, on doit le préparer et on doit le voter, nous aussi, quoi. Nous, ce budget, on souhaite qu'il reste orienté vers les priorités de nos habitants. Vous l'avez dit, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, l'éducation de nos enfants aussi, les questions de solidarité et de transition écologique. Sans oublier la qualité des services publics. Enfin, on n'insistera jamais assez sur la qualité des services publics. Quand vous avez des services publics qui sont défaillants, eh bien, c'est l'une des raisons qui pousse nos concitoyens aussi à se tourner vers l'extrême droite. Hein, une colère, et bien cette colère-là, elle trouve sa réponse ou son écho dans les partis extrémistes.
Vous parliez de l'éducation, Driss et Azaoui. Les résultats PISA sont tombés, ils sont très mauvais pour la France. Ils indiquent que le pays doit vraiment placer l'éducation au cœur des priorités. Autre élément important, les écarts entre les élèves de différentes classes sociales. Ces écarts restent importants. En France, comment remédier à cela, hein? Je rappelle que l'OCDE a dévoilé ses résultats. Les scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques des élèves de 15 ans n'ont jamais été aussi bas en France depuis 2000.
Vous savez, on a en France un indice qui s'appelle l'indice de précarité sociale, qui émane de chez nos amis de l'éducation nationale et qui vient identifier dans les différents collèges ainsi que les écoles de secteur, de ces collèges-là, là où il y a des concentrations de difficultés. On voit bien que la France est un pays qui avance à deux vitesses, avec des territoires qui vont plutôt bien en matière d'éducation, et puis des territoires où est-ce que la pauvreté y est concentrée, eh bien, avance beaucoup moins. Et on voit que malgré les moyens sont des moyens complémentaires, des moyens supplémentaires, notamment qui sont liés à la politique de la ville, que ce soit la réussite éducative, que ce soit les programmes de cité éducative, eh bien, nous constatons effectivement que ces politiques de rééquilibrage, de repêchage, eh bien, peinent à produire leurs effets dans le long terme. Mais si nous ne les avions pas, probablement que la situation serait pire. Je le disais tout à l'heure, je pense que la question des moyens est une question importante, que notre responsabilité c'est de dépenser mieux, et pas simplement de dépenser moins. Et dans le dépenser mieux, la question de l'éducation, et je l'ai dit avant même que vous me posiez cette question, hein, la question de l'éducation reste une priorité, mais elle reste une priorité pour nos autres responsables politiques, mais aussi pour nos concitoyens.
Et vous allez d'ailleurs réunir hein, des élus autour d'une dictée géante, ce sera le 10 octobre prochain. On le comprend, la langue française est aussi un sujet politique, et parmi les personnalités qui seront présentes, il y aura la journaliste Valérie Trier-Weller, il y aura aussi l'un des auteurs les plus traduits au monde, Yasmina Kadra.
Vous savez, la langue française, François-Xavier, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine que nous avons en commun, que nous partageons. Notre association, l'Association des élus de France, a pour vocation de réconcilier. Et quel meilleur thème que celui de la langue française ? Indépendamment de votre histoire, de votre culture, de votre trajectoire, la langue française, nous l'avons ancrée en chacun d'entre nous. Sa complexité, sa diversité, la richesse de son vocabulaire, sa syntaxe, etc. En fait, c'est un peu de chacun d'entre nous. C'est notre histoire, la langue française. Et bien, c'est ça que nous souhaitons célébrer, que nous célébrons maintenant depuis 6 ans au Parlement, au Palais du Luxembourg, pardon, au Sénat, parce que c'est le lieu des grands électeurs, c'est le lieu des élus locaux. Et c'est là que chaque année, eh bien, nous prenons le temps, avec un grand nombre de lits, quelle que soit la casquette, puisque l'ADN de ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui pourrait éventuellement nous différencier. La langue française est un pilier qui nous réunit. Eh bien, autour de la langue française, nous avons à cœur, avec l'ensemble des élus qui répondent présents, d'abord de passer un moment de convivialité autour des mots, de la richesse des mots, du sens des mots, et puis cette année, en plus, avec un thème un peu particulier, à la veille de l'élection présidentielle, autour de les mots peuvent-ils encore nous rassembler ? Vous voyez, ça fait écho à l'actualité dont nous avons discuté tout à l'heure. C'est un vrai sujet sur lequel eh bien, l'ensemble des élus de l'arc républicain eh bien, seront présents, non seulement pour faire attention à faire le moins de fautes possible, le moins de fautes d'orthographe possible, mais aussi pour eh bien, évoquer un sujet de société à la veille des élections présidentielles. Et Yasmina Kadra et Valérie Trier-Weller sont nos invités. Nous sommes heureux, très heureux, eh bien, de les avoir, parce qu'ils incarnent aussi cette volonté francophone eh bien, de faire en sorte que la langue française soit un trait d'union entre les territoires, entre les cultures et entre les générations.
Voilà, le 10 octobre prochain au Jardin du Luxembourg à Paris. Merci beaucoup Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, conseiller municipal délégué à Évreux, vice-président d'Évreux Porte de Normandie et vice-président de l'association Ville et Banlieue. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.